Alors, nous avons, depuis le deuxième dimanche, maintenant, nous attardons sur le psaume 16 et on va continuer à nous nourrir de ce psaume. Le titre était « La joie de David, du Seigneur est la nôtre ». Et nous avons vu la semaine dernière la joie de David et on va voir maintenant la joie du Seigneur. Comment le dictionnaire définit la joie? Dans le petit Robert, on lit ceci. C'est une émotion agréable et profonde, un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Le Larousse est un petit peu plus précis. C'est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie d'être satisfait. Alors, hier, j'ai été témoin d'un grand moment de joie. C'était quand Fabienne, Anaïs et Elisabeth ont retrouvé leur mamie à la maison. Elles sont arrivées, c'était un grand voyage, 10 heures de route, je crois, de conduite. Et quand elles sont arrivées, c'était une explosion de joie. Et bien sûr, l'intensité de cette joie a baissé un petit peu quand le temps est passé. Mais elles devront retourner chez elles. Elles devront laisser cette joie derrière elles, en garder le souvenir au fond de leur cœur, jusqu'à la prochaine fois. Et c'était ainsi souvent les moments de joie que nous connaissons. Ils ont une durée, comme dit le dictionnaire, une durée limitée. Une durée limitée. Le psaume 16, lui, il parle d'une joie. Il parle d'un homme qui a la perspective d'une joie intense, d'une joie délicieuse et non limite, qui ne s'arrête jamais. Et donc, il sort de la définition du cadre du dictionnaire, qui sort de tout ce qu'on peut connaître ici-bas. Alors, on va lire le psaume 16. Vous pouvez le chercher dans vos Bibles. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après des dieux étrangers. Je ne réponds pas à leurs libations de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Et je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie. Et mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. La semaine dernière, nous avons regardé le contenu du psaume et ce qu'il y avait comme contexte derrière le poème de David, notamment un problème d'idolâtrie ambiante avec lequel il devait vivre. Et cette semaine, on va se focaliser sur la personne qui est décrite dans le psaume parce que ce n'était pas David qui parlait là. Puisque David a connu la mort, quand Pierre, 1000 ans après La mort de David en parle, il parle de la tombe de David qui est parmi eux. Et depuis le temps est passé, même la tombe de David a disparu. Donc, ce verset qui dit « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption » est quelque chose qui était prophétique et qui s'adressait à quelqu'un d'autre. Et c'est cette personne-là sur laquelle on va se focaliser ce matin. Qui est l'homme qui se cache derrière le psaume 16 ? Qui est mort mais n'est pas resté mort ? Et est-ce que cela change quelque chose pour moi ? Alors je vais compliquer un petit peu les choses. Parce que je vais vous faire jongler entre deux textes, entre notre psaume 16 et entre Actes chapitre 13. Pourquoi Actes chapitre 13 ? Parce que l'apôtre Paul a utilisé ce psaume pour démontrer que Jésus-Christ était le Seigneur, le Messie, et Pierre avait fait la même chose au moment de la Pentecôte, en Actes chapitre 2. Alors, c'est un avantage d'avoir une Bible papier parce qu'on peut mettre le doigt entre deux passages et on peut facilement basculer d'un à l'autre. On a tous les textes sous nos yeux avec la Bible sous forme sur le téléphone. C'est moins évident à faire. Alors, j'ai prévu la projection du texte ici. Le psaume 16. Alors, Acte chapitre 13. On va lire à partir du verset 16. Paul est dans une synagogue et là il va annoncer l'évangile. Et voilà comment il s'y prend. Paul se leva, verset 16, et ayant fait un signe de la main, il dit « Homme israélite, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple a choisi nos pères. Il a mis ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'a fait sortir par son bras puissant. Il l'a nourri près de 40 ans dans le désert, et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 400 ans environ, il ordonna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. » Et c'est à partir de David qu'on a l'annonce d'un Messie à venir. Voici la prophétie que Nathan a apportée à David lorsqu'il voulait lui construire un temple. Nous sommes donc 1000 ans avant Jésus-Christ. Samuel 2:12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et je l'affermirai pour toujours, le trône de son royaume. Salomon est devenu roi du vivant de David, et ses descendants à venir ont perdu le royaume de David, en fait. Ce Messie, celui qui devait recevoir l'onction de Dieu, était à venir et serait un descendant de David. Quelques 300 ans plus tard, le royaume de David est scindé en deux déjà. Et Ésaïe, chapitre 9, verset 5, prophétise un texte qu'on lit souvent à Noël. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice dès maintenant et à toujours. Le Messie règnera pour toujours. Ce sera un descendant de David et il règnera pour toujours. 100 ans plus tard, le royaume de David a disparu. Mais Ézéchiel, en captivité, le prophète Ézéchiel a une belle prophétie pour le peuple d'Israël. Ézéchiel chapitre 37 est un peu long, je ne l'ai pas recopié, je vais vous la dire dans ma Bible. Tu diras au peuple, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Les royaumes de Juda a été balayé à cause de l'idolâtrie du peuple. Je les rassemblerai de toutes parts. Je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux royaume. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités, où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi. Ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois, les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Eux, leurs enfants et leurs enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai eux avec une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Enfin, allusion à la nouvelle alliance dont... Jean nous a parlé tout à l'heure. Un Messie annoncé. Jésus donc, de Nazareth est le Messie. Si on reprend notre lecture de Actes 13. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, vous qui craignez Dieu, » il s'adresse là aux non-juifs, « c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem, leurs chefs, ont méconnu Jésus en le condamnant. Ils ont accompli les paroles du prophète qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'il n'ait trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix, le posèrent dans un sépulcre. Mais, verset 30, Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il ait aussi ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retourne pas à la corruption, à la pourriture. C'est ce qu'il a déclaré en disant, « Je vous donnerai des grâces saintes promises à David. » Ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il y a encore ailleurs, dans notre psaume 16, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David après avoir eu son temps, servi le dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Jésus de Nazareth est le Messie. Personne n'a jamais survécu à une crucifixion. Et la résurrection de Jésus le troisième jour après sa mise au tombeau atteste que le Messie, Jésus de Nazareth, et la personne du psaume 16 sont une seule et même personne. Alors maintenant, on va pouvoir faire la connaissance de Jésus à travers ce psaume 16. On connaît ses faits et ses paroles, ses gestes publics à travers les évangiles. Mais l'homme intérieur, qui était Jésus? Ce qui se passait à l'intérieur de lui, tout cela, on le découvre surtout à travers les psaumes et à travers ce psaume 16. Jésus de Nazareth était pleinement humain. Au verset 1, « Garde-moi quand je cherche en toi mon refuge. » Jésus trouve refuge à l'Éternel, il se confie en Dieu. Verset 2, « Je dis à l'Éternel, tu es mon souverain bien, tu es mon souverain Seigneur. » Il aime Dieu par-dessus tout. Au verset 3, il aime le peuple de Dieu. Versets 4 et 5, il est confronté à l'idolâtrie. Il ne vit pas dans le monde des bisounours. Et cette idolâtrie de l'époque, c'était, vous le savez, de l'hypocrisie, un culte de la supériorité où chacun cherchait à être dans la classe supérieure des religieux. Le culte d'une religion. Au verset 7, je bénis l'Éternel, mon conseiller. Un ministère actif. Jésus a été actif quand il était parmi nous. Verset 8, il avait besoin. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. C'était la façon dont Jésus faisait et la façon dont il était. Et verset 10 et 11, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Il avait la foi en Dieu et l'espérance. Jésus de Nazareth, pleinement humain. Jésus de Nazareth aussi, pleinement saint. Saint. Et je vais citer ici quelques paroles de Jésus qui sont rapportées par Jean dans son évangile. Verset 2. Où il est entièrement consacré. Jean 5, 41, « Je ne tire pas ma gloire des hommes. » Verset 4, « Jésus n'a pas touché au péché. Qui de vous me convaincra de péché » a-t-il défié ses détracteurs. Verset 5, « Il se nourrit de Dieu. » « Ma nourriture, a-t-il dit, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé » et d'accomplir son œuvre. Versets 7 et 8, il est complètement et volontairement dépendant de Dieu. En vérité, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Verset 7, la nuit, mon cœur m'exhorte. Il y a eu ces 3 heures d'agonie dont Jean nous a parlé tout à l'heure sur la croix. Les heures où il s'est chargé de nos fautes, les heures où il a été abandonné de son Père. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Il a puisé au plus profond de lui-même sa confiance en Dieu pour garder la foi. Versets 9 et 11, il est entièrement satisfait en son Dieu. Jean 19, 30, quand Jésus prit le vinaigre, il a dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus a accompli jusqu'au bout les exigences du psaume 16, jusque dans la crucifixion. Parlons maintenant de la joie de Jésus-Christ. Il nous manque deux versets dans notre lecture de Acte 13. Sachez donc, ô frères, que c'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses que vous pouviez être justifié par la loi de Moïse. Être justifié, c'est être considéré juste. Quel est le lot et l'héritage dont il est question au verset 5 et 6b, l'Éternel, c'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Quelle est cette possession, cette part de Jésus? Qu'est-ce qui a fait que Jésus a envisagé sa mort avec une espérance d'abondante joie? Alors moi j'ai pensé à la joie du ciel. Vous savez l'enseignement de Jésus à Luc chapitre 15, dans ses trois paraboles. La première et la deuxième commencent ainsi. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmurèrent, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie, mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller la chercher, celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il ait trouvé, et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi. » Car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde un, n'allume une lampe, ne balaye la maison, ne cherche avec coin jusqu'à ce qu'elle a trouvé. Et lorsqu'elle a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, « Réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé le drachme que j'avais perdu. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. La joie du ciel. Et suit la parabole du fils prodigue. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et comme il allait vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter et l'embrassa. Le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons. Et réjouissons-nous, car mon fils, comme voici, était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. La joie de Jésus-Christ, c'est la joie du ciel, du pécheur, qui retrouve la maison du Père. C'est la joie aussi après la souffrance. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Le moment où Dieu s'est détourné de Jésus et a déversé sur lui la colère à cause de notre péché, cela a été un moment terrible. Il a souffert la croix. Les psaumes 22, 69 et 88 parlent de ce qui s'est passé dans son cœur. À ce moment-là. Mais il y avait un après. Il y avait
un moment de joie intense.
Et cette joie intense, elle est venue par notre salut, par tout ce qui allait retourner, trouver la réconciliation avec de tout ce qui allait être sauvé, trouver le salut dans le sang de Jésus-Christ. Et c'est une joie partagée. Jean 16, 21, 22, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme naît dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, votre joie, votre cœur se réjouira, nul ne ravira votre joie. Une joie qui sera partagée. Et maintenant, je vais à toi, Jean 10, 13. Je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Alors, quelle place on trouve dans tout cela? Cela concerne Jésus-Christ. Jésus a payé le prix fort pour que nous soyons sa joie. Et en même temps, il voulait nous insuffler sa joie, que nous soyons celui qui donne de la joie et avec, à qui il va donner la, sa joie. Le psaume 16.2 se traduit de différentes façons. Je vais dire différentes façons et je vais dire l'inverse parce que hélas, il y a, quand on lit ce verset, il y a un obstacle entre la joie de Dieu et nous. On est obstiné à considérer que Dieu a peu de valeur. Et alors qu'il est saint, on le considère Dieu comme ayant peu de valeur. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître, mon bonheur n'est pas en dehors de toi. C'est le rabbinat français. Et si on le tourne en envers, ça veut dire, je suis libre et mon bonheur est 3 points de suspension. Et vous pouvez rajouter, qu'est-ce que c'est qui fait votre bonheur aujourd'hui? Je dis au Seigneur, tu es le Seigneur, tu es mon bien, il n'y a rien au-dessus de toi. La NBS. Et l'inverse, c'est Dieu a peu de place dans ma vie. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur, parole de vie. Et l'inverse, je ne parle pas à Dieu, je n'ai rien à lui dire. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul. La Bible du Semeur. Et l'inverse, je suis esclave de bien des passions. Pour mon plus grand malheur. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. La seconde 21. Finalement, ce qui est le plus important pour moi, c'est moi-même. Triste constat. Quelqu'un d'entre nous dira peut-être, je suis à des années-lumière. Du verset 2 du psaume 10. C'est trop grand, trop élevé pour moi. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu. C'est pour cela que Dieu s'est approché de nous par Jésus et que par sa mort, il a fait l'expiation de nos fautes. Jésus s'est écrié sur la croix, tout est accompli, tout est payé et il suffit de le croire. Il suffit de le croire. L'humanité se divise en deux, on a la coutume de dire. Il y a ceux qui imiteront le Fils prodigue et qui reviendront à Dieu dans la repentance et qui provoqueront la joie de Jésus et qui entreront dans la joie de Jésus. Cette joie qui sera insufflée en eux-mêmes. Et puis il y a ceux qui ne saisiront pas la main tendue et continueront à faire la tête dans leur coin ou à faire la fête dans leur coin. Ils préféreront rester assis sur le bord du trottoir que de rentrer dans la salle de noces. La balle est finalement toujours dans notre camp. Mais le Saint-Esprit nous dit, viens, viens. Alors on a peu de cantiques qui parlent de la joie du ciel quand il y a quelqu'un qui se repent. Il y en a un que je connais dans les ailes de la foi, c'est le 244 têtes, parmi nous il y en a qui le connaissent et qui pourront le chanter. Ça fait joie au ciel.